Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Il y a quelques semaines, nous nous sommes intéressés à l'université Paul Valéry. Je vous propose d'exercer aujourd'hui notre curiosité sur l'université de Montpellier, née en 2015 de la fusion des universités Montpellier 1 et Montpellier 2. C'est un véritable univers, une espèce de ville dans la ville, avec 52 000 étudiants et étudiants, plus de 5 000 agents, dont 2 800 enseignants et chercheurs, 17 facultés, écoles et instituts et 74 structures de recherche. Nous ne ferons donc pas le tour complet, mais nous allons avoir une meilleure compréhension grâce à mon invité, Philippe Auger, son président. Je vous remercie d'avoir accepté de venir au micro de Divergence FM. Philippe Auger, vous êtes un juriste en droit public, notamment spécialiste des finances publiques et du droit fiscal. Vous avez dirigé l'Institut de préparation à l'administration générale et avez été vice-doyen de la faculté de droit. Vous avez été élu président de l'Université de Montpellier en 2015 et réélu en 2019. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a conduit à prendre cette responsabilité ?
Ouais, je pense que c'était un challenge, puisque auparavant j'étais président de l'université Montpellier, et depuis à peu près une vingtaine d'années, sur le site de Montpellier, on parlait de la fusion des universités.
Oui, c'était une affaire qui a mis du temps
à
aboutir.
Voilà, ça a mis du temps à aboutir, ça a été la fusion parfois tentée à trois, finalement qui s'est faite à deux, alors que les autres sites universitaires, que je pense comme Bordeaux, Grenoble, Aix-Marseille, Strasbourg, avaient déjà fusionné. Il y avait la nécessité pour une ville comme Montpellier, donc, eh bien, il nous semblait d'avoir une grande structure universitaire, parce qu'en plus, c'était en lien avec les financements. Oui. À l'époque, c'était les programmes d'investissement d'avenir qui finançaient sous la base d'IDEX ou d'ICIT, en grande partie, les sites fusionnés. Donc, c'est une histoire de deux challenges. Et puis, tout au long de ma carrière, depuis mon premier recrutement, c'était en 1997, j'ai fait des fonctions administratives, service d'information.
Voilà, vous connaissiez la machine.
Voilà. L'IPAC, j'étais directeur des études. Voilà, je connaissais la machine. Et puis après, c'est un concours circonstance, des rencontres avec d'autres collègues qui sont d'accord pour partir dans un projet commun. Et après, ce beau projet, d'une part de fusion, puis ensuite de labellisation qui a été obtenue au titre des investissements d'avenir avec le projet ICIT, tout à fait.
Très bien. Alors, votre mandat actuel s'achève en 2025, en décembre 2025. Vous pensez être un nouveau candidat ?
Ah, je ne sais pas, vous savez, les choses se font jour après jour. Et il y a de beaux projets qui sont en cours aujourd'hui. Il y a encore des choses dans les cartons. Après, on verra donc avec l'équipe qui
vous entoure
aujourd'hui. Voilà ce que chacun souhaite faire. Vous savez, aujourd'hui quand même, il y a d'un côté un peu la croisée des chemins. Quels seront les financements donc pour l'enseignement supérieur public dans quelques années? Quelle place donc pour les universités versus l'enseignement privé lucratif? Donc il y a toute une série aussi de questions qui sont en suspens et qui contribueront sûrement à guider le choix de mon équipe et mon choix le moment venu.
Très bien, mais on verra ce moment-là. Donc avant de nous faire mieux connaître votre grande maison, comme vous le savez, dans cette émission, racontez-nous pendant quelques minutes, en tout cas, votre Montpellier. Et d'abord, quels sont les lieux à Montpellier que vous aimez, même si ce n'est pas nécessairement les plus connus ou ceux qui figurent dans les guides touristiques, vos lieux d'élection, si j'ose dire?
Oh, essentiellement le centre-ville, l'Écusson. J'habite à côté du stade Philippides, donc vous savez, quelques pas, donc on est au centre-ville, un centre-ville qui est très dynamique, et c'est essentiellement donc, eh bien, le jardin du Pérou, la rue Foch, la descente donc jusqu'à la place des Martyrs, résistance et préfecture. Après, je vais quand même un petit peu moins sur la Comédie, je préfère éviter la Comédie, me retrouver directement en contournant via le musée Fabre sur l'Esplanade. C'est un lieu qui a assez peu bougé finalement, puisqu'il y a cette logique de bâtiment historique.
Voilà, le côté patrimonial.
Après, c'est vrai que le reste de Montpellier, que ce soit donc le domaine de mairie, quoi, c'est très bien aussi, mais je suis attaché à faire Montpellier à pied. Et donc, c'est aujourd'hui très agréable d'être dans ce quartier-là, l'Écusson Nord, pourrait-on dire. Ouais.
Alors, quand vous avez des amis ou des parents de passage, que leur dites Montpellier, ou plutôt, qu'est-ce qui, selon vous, vous connaissez d'autres villes, qu'est-ce qui caractérise Montpellier? Est-ce qu'il y a une espèce de style montpellierain, d'ambiance ou de style urbain?
Oui, alors style urbain, finalement, ce qui des fois surprend, c'est le caractère très petit, finalement, du centre-ville, du centre-ville piétonnier ou le cœur historique de Montpellier. Avec ce côté, donc, jardin des plantes, Pérou, faculté de médecine, faculté de droit, allant jusqu'à l'esplanade et la maison des Orlestres-Sol, qui est finalement la cathédrale Saint-Pierre, le Montpellier historique. Et si on regarde finalement, toute l'histoire de Montpellier se concentre dans cette partie-là, puisque eh bien, il y a aussi les chapelles, les Pays-Temps bleus, Pays-Temps blancs, la chapelle de Miséricorde, il y a également donc les anciennes facultés, le rectorat était aussi le siège de l'université, donc on peut, le Richard Belval est aussi l'ancienne mairie de Montpellier. Mm-hmm. Donc finalement, ce qui caractérise, c'est que Montpellier s'est bâti autour de cet écusson nord.
De quelques rues. Oui.
Voilà, de quelques rues et de quelques immeubles un peu emblématiques de la ville.
Très bien. Alors, on va en venir maintenant à l'université, en commençant, si vous le voulez bien, par des questions d'actualité. Alors, l'occupation de Sciences Po Paris par des étudiants pro-palestiniens a suscité beaucoup de réactions, à la fois dans la sphère politique et dans le monde universitaire. Avez-vous connu, connaissez-vous de telles situations là, à Montpellier, dans votre université, de tensions ou d'interventions d'étudiants qui viendraient troubler ou en tout cas modifier la marche habituelle des choses?
Non, aujourd'hui, côté Université Montpellier, comme dans la majeure partie des universités, il n'y a pas donc ces occupations qui peuvent parfaitement survenir. C'est le plus souvent un peu brutal, un peu soudain, ça ne s'anticipe pas vraiment. Et c'est vrai que ça peut surprendre. Ça peut surprendre parce que d'un côté, l'université doit être un lieu de savoir, un lieu d'échange, un lieu de confrontation d'idées. On le dit régulièrement. Hein. Nous accueillons toute l'année des milliers de conférences publiques, des colloques scientifiques. On est finalement une seule institution en France à pouvoir donner un cadre d'échange aussi riche. Mais simultanément, eh bien, nous sommes du service public. Le service public avec les missions du code d'éducation, juste sans faire de cours de droit, juste je rappellerai que le service public tel qu'on le définit pour l'enseignement supérieur, il est laïque, il est indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse, idéologique, il tend à l'objectivité du savoir. Et donc, on doit assurer la continuité du service public. Donc, c'est chaque fois la ligne de crête, et finalement, ou le point sensible entre, d'une part, permettre la liberté d'expression, et de l'autre côté, faire en sorte que nos établissements puissent fonctionner, ne soit pas bloqué, parce qu'il y a quand même ces missions de formation, ces missions de recherche, et puis également le blocage, eh bien, ça peut entraîner parfois des dégradations, et finalement aussi c'est quand même l'argent public qui finance nos bâtiments, toute notre institution. Donc il faut arriver à trouver les deux, et on essaye au cas par cas, eh bien, de pouvoir, lorsque les conditions, bien sûr, de sécurité, c'est pas de risque trop public, eh bien, autoriser les différents événements, mais c'est vrai que les blocages, eh bien, peuvent poser des problèmes, oui. Et posent des problèmes aussi pour potentiellement les bloqueurs eux-mêmes, qui parfois ne sont pas en condition de sécurité maximale.
D'accord. Alors, il y a quelque temps, avant que l'affaire de Sciences Po Paris n'éclate, vous avez vous-même refusé d'accueillir pour « risque de trouble à l'ordre public », entre guillemets, la conférence « Sionisme et Apartheid », conduite par Pierre Stamboul, membre de l'Union juive française pour la paix. Elle a pu se tenir sans encombre dans le site Saint-Charles de l'Université de Paul-Valéry. Alors, ce que vous venez d'évoquer antérieurement fait également référence à un appel signé par 70 présidents d'université qui s'est tenu, pour reprendre vos mots, cette ligne de crête entre la sécurité, disons, au sens large, et le respect vigilant, je dirais, de la liberté d'expression dans le cadre universitaire, dans le cadre académique.
Tout à fait, mais c'est vrai que j'assume complètement d'avoir donc refusé cette mise à disposition de locaux, d'avoir ne pas avoir laissé organiser cette conférence. Je suis très heureux qu'elle ait pu le faire sans encombre donc ailleurs. Maintenant, d'après les éléments donc que je possédais, que possédaient mes services, parce qu'il y a une analyse chaque fois juridique, on a pressenti qu'il pouvait y avoir des risques trop publics, et je ne voulais pas donc eh bien que ces risques surviennent. Alors, j'ai pris une décision d'interdiction, elle aurait pu être contestée devant le tribunal administratif. D'autres décisions de pré-université ont été contestées soit devant le tribunal administratif, soit devant le Conseil d'État, et après le juge statue.
Il est assez souvent en faveur de la liberté, d'ailleurs.
Tout à fait, tout à fait. Il est moi de ma responsabilité de prendre une décision. Je l'assume, elle peut être contestée, elle peut être annulée. Si elle est annulée, ben, je me conformerai à ce moment-là, bien sûr.
Le juriste ne peut pas se déjuger.
Oui, oui. Non, mais je pense qu'il faut chaque fois, donc, et c'est toute la difficulté, on doit tenir compte du contexte particulier. Le contexte particulier, on dit de temps et de lieu. Et donc, une décision qui est prise un jour J pour un tel amphi n'est peut-être pas la même, qui va être prise le lendemain pour un autre amphi, ou sur une autre thématique, ou dans un contexte, parce qu'on prend aussi le contexte qui est le contexte national, les pressions qui peuvent exister, et donc tout cela s'analyse au cas par cas.
Très bien. Alors, autre question liée à l'actualité, en tout cas à la parution hier dans le journal Le Monde, d'une enquête qui montre la très grande disparité des subventions de l'État aux universités. Deux exemples flagrants sont cités. 3 812 euros par étudiant et étudiante pour l'université Paul Valéry, plusieurs fois cités dans l'article, et plus de trois fois, 13 195 euros exactement par étudiant, pour l'université Eiffel. Bon, elle se caractérise par cette huit sites en France. À quel niveau se situe votre université dans ce palmarès, dans cette hiérarchie?
Alors, ce palmarès, d'abord, il peut faire bondir parce que c'est un calcul purement mathématique, une division entre les dotations reçues de l'État et le nombre d'étudiants.
Oui, il a quelque chose de simplificateur.
Voilà, très simplificateur. Il ne tient pas en compte ce nombre d'éléments que je vais évoquer. Nous, on se situe aujourd'hui dans une moyenne, puisqu'on est à 7 175 euros par étudiant, ces critères-là, donc largement au-dessus de l'université Paul Valéry, je l'assume, mais aussi en dessous d'autres universités de taille identique, donc ce qu'on appelle les universités pluridisciplinaires avec santé. Si on regarde, par exemple, Marseille...
Oui, parce qu'il y a des disciplines qui sont plus coûteuses.
Voilà, parce que ce qu'il faut dire derrière, c'est que cette approche est trop réductrice, parce qu'on ne prend pas en compte deux choses. Un, la diversité des techniques d'enseignement et derrière aussi des activités de recherche. Parce que lorsque vous avez des sciences dures, des sciences du vivant, lorsque vous avez de l'expérimentation à faire, eh bien, il y a du matériel qui est très coûteux. Et ça, ce n'est pas mis en avant dans cette enquête-là. Et puis, il y a un autre élément qui n'est pas pris en avant non plus, c'est la diversité des sites. Vous avez évoqué l'université Eiffel, qui a plusieurs sites. Oui, ben, l'université de Montpellier, elle a aussi plusieurs sites, puisque nous sommes sur Béziers, Nîmes, Mende, Perpignan également, 7. Et donc, cette occupation multisite bien fait qu'il y a des coûts qui sont inhérents à cette diversification, à cette implantation territoriale, des agents qu'il faut mettre donc sur le terrain, plus de bâtiments, des bâtiments qu'il faut entretenir aussi. Alors, je ne dis pas cela pour me justifier, parce que bien évidemment, cette somme de 3 800 et quelques euros pour Paul Valéry est une somme très faible, et j'entends très bien la présidente Freys qui défend le positionnement de son université, et elle dit, comme explique pourquoi je suis là-dessus. Donc, j'ai de la bienveillance à son égard, je comprends les problématiques qui sont les siennes, mais je pense qu'aujourd'hui, voir les universités à travers ce classement d'une dotation divisée par le nombre d'étudiants,
voilà, ça
suffit
pas.
Trop réducteur. C'est trop réducteur de la diversité de nos missions.
On l'a bien compris. Alors, vous l'avez rapidement évoqué dans une réponse précédente. Pouvez-vous nous dire quelles sont les grandes lignes de la stratégie de comment, depuis votre arrivée, donc j'imagine dans cette trajectoire telle qu'elle est dessinée, on peut décrire, je dirais, comment cette université s'est développée et a gagné, je dirais, en activité et peut-être aussi en rayonnement.
Alors, l'université, de manière générale, je veux donner deux axes de développement. D'abord, je dis que c'est une université qui doit être présente territorialement, notamment dans le domaine de la formation. Et c'est une université qui doit être visible à l'international, donc internationalement, dans le domaine aussi de la recherche. Alors, pourquoi je dis cela? Pour la formation, la priorité pour nous, c'est d'avoir des formations qui sont professionnalisantes. Et là, c'est chasser une idée reçue selon laquelle l'université formerait, mais ne se préoccuperait pas de l'insertion professionnelle. Or là, eh bien, l'université forme et insère, tous les indicateurs voient cela. Mais également, cette formation, elle ne doit pas se concentrer sur la métropole. Sur la métropole montpelliéraine, et il faut développer des formations, notamment des formations de premier cycle. du premier cycle.
C'est donc c'est le cas à Béziers, voilà. C'est le cas à Mende notamment.
Développer des formations de premier cycle, alors des fois ça peut aussi un peu plus jusqu'au master, mais le plus souvent de premier cycle sur ce qu'on appelle les villes d'équilibre. Alors c'est le cas à Béziers avec l'IUT, c'est le cas à, également donc, à Sète avec deux départements donc, d'IUT, c'est le cas aussi à Nîmes, puisqu'il y a un tiers des effectifs de la fac de médecine qui sont à Nîmes, il y a un IUT également à Nîmes, parce que c'est le cas aussi à Mende, enfin à Perpignan, toutes les préfectures de l'ex-Languedoc-Roussillon également. Mais pourquoi je dis cela? C'est parce que on n'a pas besoin d'engorger une métropole de l'arrivée d'étudiants en premier cycle. Ça a un coût, ça peut être un frein aux études.
Oui, bien sûr, il y a l'hébergement, les déplacements.
Et d'autre côté, si étudiants restent sur leur territoire, voire même si on développe sur ce territoire, je pense par exemple à Béziers avec une licence sur la robotique et l'intelligence artificielle, avec une licence professionnelle également via l'IUT, sur, BUT, pardon, sur la question des multimédia, eh bien là, on peut attirer sur ces villes d'équilibre des étudiants d'autres régions, d'autres villes. Et donc, c'est également un outil de développement économique de ces territoires. En revanche, et là où je suis très attentif, c'est que les formations de niveau master, ensuite, doivent se faire.
Oui, parce que ça demande aussi.
C'est un appui à la recherche. Il doit y avoir un appui à la recherche. Le master, de manière générale, c'est une formation avec un appui à la recherche ou une formation par la recherche. Et donc là, on peut multiplier les investissements. Mmh. Mais il faut qu'en termes de formation, eh bien, on joue ce maillage territorial. Voilà. Tout à fait. Bien sûr, on ne peut le jouer que si deux partenaires jouent le jeu. C'est d'une part l'État qui concentre des moyens ou donne des moyens supplémentaires pour qu'on ait cette politique territoriale. Et puis derrière, les collectivités territoriales, que ce soit les villes, les agglomérations ou la région. La région avec son SRESRI, la région avec des dotations spécifiques.
C'est le schéma régional
de l'enseignement supérieur, de la recherche de formation. Si on a pu développer 7, par exemple, 2 formations sur 7 récemment, c'était la conjonction d'une volonté de l'État, de la rectrice, de la présidente de région, du président de l'Aglopole de Sète pour mettre des financements et monter cette formation. On fait pareil à Béziers actuellement avec la volonté notamment des collectivités et de l'État de pouvoir mettre en œuvre, et d'entreprises aussi, puisque c'est un groupe Genevia, de pouvoir mettre en œuvre donc notre formation. Ça, c'est pour la formation. Pour la recherche, en revanche, eh bien, on doit jouer sur une visibilité internationale.
Bien sûr.
Et donc s'ouvrir sur des partenariats internationaux, financer des projets de recherche, des mobilités.
Alors, des partenariats avec des chercheurs, avec
alors,
des entreprises
avec des, alors, les partenariats internationaux, c'est plutôt avec des structures universitaires. Et on doit savoir donc choisir nos partenaires. Pas faire, comme je dis, de la relation internationale d'opportunité, où il suffit que deux collègues se croisent dans un congrès pour faire un partenariat, mais au contraire, choisir la destination avec lesquelles eh bien, nous partageons des choses en commun. C'est le cas, par exemple, pour nous, avec Wageningen, sur l'agronomie. C'est le cas avec UC Davis, en Californie, qui a une structure un petit peu qui ressemble à l'Université Montpellier. C'est le cas avec l'Université de Barcelone, où avec l'Université de Barcelone, nous avons des thématiques communes. Nous sommes également dans un projet d'université européenne. Donc, il doit y avoir cette visibilité de la recherche à l'international et qui doit se doubler eh bien, de mettre en avant, parce que nous sommes université de province, parce que nous ne pouvons pas être visibles sur toutes les thématiques,
eh bien, oui, il y a des choix opérés.
Voilà, des choix de visibilité internationale de telle thématique. Aujourd'hui, nous, c'est nourrir, soigner, protéger. Donc, c'est la biologie santé, notamment, c'est l'agronomie.
L'agronomie, c'est le lien avec les nombreux instituts.
Tout à fait.
Donc, agro et autres à Montpellier.
Il faut qu'on arrive à jouer cet équilibre entre une formation professionnalisante, pardon, et territoriale, et de l'autre côté, une recherche reconnue et attractive à l'international.
Alors, parmi les caractéristiques que j'ai pu repérer, en essayant de donner à comprendre ce qu'est l'université, ce que vous venez d'indiquer, je pense que beaucoup de Montpellier vont découvrir que l'université ne s'arrête pas aux portes de la ville, il y a l'interface sciences et société, bon, qui est illustrée ici, je le dis, par une émission consacrée à ce qui se passe notamment en recherche à l'UM. Elle s'appelle, cette émission, à l'UM, la science, elle est diffusée juste avant, racontez-nous votre Montpellier, le mercredi à 18h, le jeudi à midi, le samedi à 18h, puis accessible en podcast. Cette priorité, là, à quoi tient-elle et comment se concrétise-t-elle, science et société?
C'est ce qu'on appelait, un petit peu avant la diffusion des savoirs, l'université, elle n'a pas pour vocation que de former les jeunes publics, c'est-à-dire les bacheliers. Elle a également donc d'autres missions de formation. Formation donc tout au long de la vie, c'est pour les personnes qui sont donc en activité, qui veulent reprendre leurs études. Et puis c'est également formation de tout les citoyens. Et donc, c'est notre participation donc, là, aux Journées des Savoirs, notamment à ces conférences.
À l'Agora des Savoirs.
À l'Agora des Savoirs, à Allume la Science. C'est également donc, toute une série de participations tout au long de l'année, par exemple aussi lors des Journées du patrimoine. Il faut que l'université, qui plus est, l'université à Montpellier, qui a 800 ans d'existence, qui s'est construite avec la ville, eh bien, sache s'ouvrir.
Elle était insuffisamment il y a quelques temps.
Parce qu'à un moment, on a quand même considéré un petit peu les universités.
Parce qu'il y a l'idée un peu d'un, comment dire, une espèce de fortin du savoir,
oui, hein, voilà,
un peu replié sur lui-même.
Tout le monde a considéré que l'université, c'était des fois un bastion très refermé, une baronnie, voilà. Et donc non, au contraire, il faut que nos chercheurs puissent aller donc, devant le plus grand nombre. C'est par exemple lors de la journée des océans, là, je crois le 22 mai, il y aura des conférences aussi qui sont organisées. On a également un centre UNESCO sur l'eau qui a aussi pour vocation d'aller vers des publics non universitaires. Il faut que nous montrions qu'il y a dans l'université une recherche, une démarche scientifique, une quête de vérité. Et c'est aussi, à travers cela, eh bien, la volonté de recrédibiliser le débat public. Le débat public qui ne se limite pas à 120, 150 caractères, mais qui s'appuie sur des démonstrations, sur des faits scientifiquement prouvés, sur une démarche intellectuelle. Et je pense qu'il est très important pour la crédibilité de la recherche et pour la crédibilité de l'institution, eh bien, que nous ayons cette ouverture sur le Montpelliérain, sur les différents publics qui constituent...
Alors
donc,
ça peut se traduire par des événements.
Oui, c'est événement, mais c'est
par
également...
Par des visites de laboratoire.
Événements, c'est également l'université du Tiers-Temps, où nous avons aussi pas mal de collègues qui interviennent faire des conférences. En plus souvent, c'est le public un petit peu plus âgé qui sont auditeurs de ces conférences. C'est finalement profiter de chaque sollicitation pour faire en sorte eh bien, que nous puissions montrer et même démontrer ce qui se fait chez nous, les forces que nous avons, et que nous puissions aussi mettre des noms, des visages derrière ces chercheurs.
Incarner. Alors, quand on a préparé cette émission, on a parlé notamment des équipements sportifs là, qui sont constitués en des lieux partagés entre bon, les étudiants et d'autres Montpelliérains.
Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, c'est aussi une question d'université dans la ville et puis une question de financement. Eh bien, nous faisons en sorte de pouvoir partager ou faire en sorte donc, eh bien, que des infrastructures soient cofinancées, soient donc co-gérées avec des collectivités. Et c'est vrai que le partenariat, je le veux de tous côtés. C'est également le cas avec les entreprises et les fondations d'entreprises que l'on peut avoir, mais c'est avec les collectivités territoriales. Et si vous prenez le cas donc, des infrastructures sportives, ben, c'était la piscine de la Motte Rouge, par exemple, qui a été fermée pendant des années parce que l'université n'avait pas les moyens donc, de la rénover. Le maire-président, Michael Delafosse, dès son élection, a fait une démarche donc, pour me dire alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus. Ben, moi, on a cédé la piscine de la Motte Rouge pour qu'elle puisse effectivement être rénovée par la métropole
et utilisée
par tout un chacun. Le stade Philippides, par exemple, là, c'est plus ancien, ça fait une trentaine d'années. C'est un stade qui est un stade universitaire.
Ah oui, c'est pas connu, ça.
Il appartient à l'université. On le verra aujourd'hui au passage de la flamme olympique. Et il y a une convention avec la ville de Montpellier qui assure l'entretien, la mise à disposition des clubs sportifs. Je pense qu'il faut jouer intelligemment. On ne va pas se regarder en chien de faïence. On a besoin des mêmes infrastructures. On n'a pas les moyens pour multiplier donc, ces infrastructures. Travailler ensemble. Donc, les collectivités, c'est ça. Ça peut être aussi des actions sur des bibliothèques, sur des médiathèques. Moi, je suis ouvert à tout. Mais c'est également des partenariats aussi avec le monde de l'entreprise.
Oui, parce que c'est ça. Vous l'avez dit, je le coupe. Il y a les relations institutionnelles qui induisent bon, des opérations. Il y a des relations avec des entreprises, notamment via des labos de recherche qui travaillent avec des entreprises bon, de la métropole et bien sûr de là. Et puis, vous l'avez évoqué, des relations, je dirais, avec des Montpelliérains, avec des particuliers, quoi, qui, d'une manière ou d'une autre, ont des liens avec vous, participent à des opérations, sont présents sur les sites et créent ce lien entre la population et l'université, quoi.
Tout à fait. Et c'est vrai que là, il y a des fondations qui ont été créées. Alors, beaucoup d'universités ont des fondations, mais nous, par exemple, la fondation du Jardin des Plantes, qui a été créée avec des entreprises, donc montpelliéraines, a permis de rénover le bâtiment emblématique de l'orangerie. Donc ça aussi, c'est un bel exemple de partenariat. Il y a une fondation aujourd'hui, donc avec des entreprises aussi du spatial et de l'aérospatial. Donc c'est la fondation Valen qui permet à l'université eh bien, d'avoir son centre spatial, développer en termes de formation et de recherche ce qu'on appelle des nanosatellites. Ça aussi, c'est quelque chose un petit peu peut-être de peu connu, mais ces entreprises qui nous aident au quotidien, eh bien, peuvent nous aider, nous aident à monter des formations, à mettre en place des terrains d'expérimentation pour nos étudiants et dans des domaines où il y a de très fortes demandes d'insertion professionnelle. Donc, moi, je ne suis pas à regarder l'entreprise comme monde à part. Aujourd'hui, public, privé, eh bien, on doit avancer pour un territoire qui gagne et travailler sur des aspects qui sont structurants. Donc, on a cette volonté. On a cette volonté parce que, comme je dis toujours, ça crédibilise donc, l'université qui est parfois... donc vu comme avec un aspect des fois un peu un point d'humour, des fois un petit peu, je dirais, ironique. Non, l'université, c'est quelque chose qui forme, qui insère, dans lequel il y a une recherche de qualité en lien avec l'ensemble des organismes nationaux de recherche, parce que ça aussi, c'est une force sur Montpellier. La force de Montpellier, ce n'est pas que sur l'université.
C'est le CNRS, c'est l'INRAE.
C'est le fait d'avoir tous les organismes nationaux de recherche présents, CNRS, INSERM, IRD, le CIRAD. Et donc, ça, c'est une force. Et puis également, après, avoir aussi cet écosystème de la santé avec le CHU de Montpellier, l'ICM notamment, le CHU de Nîmes aussi, qui est sur cet aspect très nous. Donc, il y a aussi aujourd'hui un écosystème à Montpellier qui, pour le savoir, est quelque chose d'assez exceptionnel.
Alors, bon, on y vient naturellement, ce sera une de mes dernières questions. Bon, il y a des prix, hein, des classements. Shanghai, le plus connu. Comment, à grands traits, bien sûr, se situe Montpellier-Rennes ? Bon, on peut discuter, je dirais, de ces palmarès comme il y en a dans la chanson, mais comment Montpellier, quelle place Montpellier a-t-elle dans ces classements internationaux ?
Alors, c'est vrai qu'on peut discuter de ces classements parce que toutes les disciplines ne sont pas placées à la même enseigne. Alors, nous, on se situe aujourd'hui dans le top 200 donc, des universités mondiales, donc on est classé parmi les 200 meilleurs, mais vous savez, c'est très relatif. 200, 300 sur 20 000, oui. Sur 1 000 universités. Je veux dire que je pense que les 300 ou 400 premières ont une visibilité toute singulière. Mais c'est vrai que pour une ville de province, ça fait plaisir. Et puis après, au-delà de ce classement général, donc toutes thématiques confondues, dans Shanghai, il y a 42 classements donc, thématiques par discipline. Et là, on se situe actuellement donc à la deuxième rang mondial sur la thématique écologie. Mais là aussi, on a été premier une fois, on a été troisième aussi. Ça se joue souvent entre Oxford et nous. Bon, après, là aussi, dès lors qu'on est à les 10 premiers, c'est une visibilité. Puis, il faut quand même savoir que sur une douzaine de ces classements donc thématiques, on est dans les 100 universités premières. Donc, avec des questions, bien sûr, sur la question de l'écologie, comme je dis, mais sur les questions aussi de santé, d'eau. On est la première université française à travailler sur la thématique de l'eau. Donc, cet élément de fierté, il faut quand même relativiser. Parce que l'étudiant, il vient à l'université pour avoir une formation reconnue, un diplôme d'État, d'abord. Je précise aussi parce que tout officier ne délivre pas un diplôme d'État, une formation reconnue, une formation qui insère et le classement international, il le voit après. En revanche, en termes d'attrait d'étudiants internationaux, de chercheurs ou autres, oui, les classements internationaux ont leur visibilité.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure une espèce d'idée reçue, bon, ces faussetés, ces allégations qui peut-être vous agacent. Profitons des quelques petites minutes qui nous restent. Quelles sont les choses qu'on dit banalement, bêtement, dont vous efforcez de démontrer qu'elles sont infondées?
Oui, alors, il y a deux idées reçues qui reviennent sur l'université. La première, je l'ai dit, c'est que l'université forme, et parfois on dit, voilà, bon, mais ça donne un bagage intellectuel, mais ça s'arrête là. C'est faux. L'université forme, mais l'université insère professionnellement, soit en début de carrière, soit même après en revenant, donc pour pouvoir faire de la formation continue. Il y a un lien aujourd'hui très étroit entre les universités et l'insertion professionnelle.
Ce n'est pas plus fort qu'autrefois.
Oui, plus fort qu'autrefois. Toutes les universités ont mis en place des bureaux d'aide, l'insertion professionnelle, les formations de master ont des liens avec des professionnels qui interviennent, des professeurs associés qui viennent donc d'entreprises. Donc là aujourd'hui, l'idée sur laquelle les écoles, donc publiques ou privées, inséreraient l'université ne ferait que former, c'est une idée reçue, une idée qui est fausse. Nous formons et nous insérons. Et puis la seconde idée, c'est l'image qu'on a souvent de l'université. Vous savez, les médias, qu'est-ce qu'ils montrent à l'université ? Ils vont montrer des étudiants affalés sur les pelouses. Et quand ils montrent un bâtiment, ils montrent soit des locaux délabrés, soit des chaises qui barricadent des portes, même quand il n'y a pas occupation de locaux. Or, ce n'est pas ça, l'université. L'État et les collectivités ont massivement investi ces dernières années, depuis le plan Campus, c'était en 2007, puis les contrats de plan État-région. il y a eu beaucoup d'investissements et l'immobilier universitaire est en train donc de revenir à la hauteur. Alors bien sûr, on a laissé pendant 30 ans...
Mais il y a encore du travail.
Il y a encore beaucoup de travail, mais l'idée finalement de l'université, on est forcément dans des amphis délabrés, des étudiants serrés dans un amphi, ça a considérablement évolué et ce n'est plus l'image aujourd'hui de l'université ou la réalité de l'université.
Eh bien, cette réalité, vous nous l'avez décrite, Président, Mme Philippe Auger, je vous remercie et je renvoie les auditeurs à notre émission Allume la science pour garder le contact hebdomadairement, voire plus, avec votre université. Au revoir.
Au revoir, merci.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.